3. Donner un sentiment de résolution. L'anaphore. L'anaphore est une figure de style consistant à commencer une série de phrases par la même séquence de mots. Une France de la justice ou l'argent, une France de la solidarité ou aucun des enfants, une France du civisme où chacun demandera. Il est également possible de placer le pivot en fin de phrase, auquel cas, si l'on désire employer un vocabulaire technique, on parlera plutôt d'une épiphore. Le changement, c'est maintenant, l'espérance, c'est maintenant, le futur, c'est maintenant. L'anaphore est déjà en elle-même un procédé de science. Elle forme dans le discours une période propice au crescendo. Pour cela, nous allons construire notre anaphore à la manière d'une marée montante, dont les vagues avancent et refluent, gagnant chaque fois un peu plus de terrain. Il nous faudra donc monter en intensité au cours de notre phrase 1 afin de terminer sur un premier sommet émotionnel avant de laisser redescendre naturellement la pression au début de la phrase 2. À ceci près que nous allons amener cette deuxième phrase encore plus haut en intensité avant de recommencer pour la phrase 3 et ainsi de suite. Pour les auditeurs, cela crée une impression d'intensification et d'accumulation qui fait monter progressivement en eux les émotions sans qu'ils sachent jamais quand cela va s'arrêter. Bien maîtrisé, ce crescendo peut générer un effet de science très fort. Mais ce n'est pas tout. Car, par sa structure même, l'anaphore appelle une clôture. Lorsque nous sentons que les émotions de l'auditoire sont au plus haut, et que nous avons atteint l'apogée absolue de la période, il va nous falloir la refermer. Pour cela, nous allons utiliser une phrase conclusive qui reprend généralement le pivot autour duquel nous avions construit notre figure, tout en y introduisant une variation. La France n'est pas un problème, la France est la solution. Le futur, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Cette phrase conclusive va donner à l'auditoire un sentiment de résolution très net, qui produira un climax émotionnel et servira d'indice infaillible pour le déclenchement des applaudissements. Parce qu'elle agit à la fois comme un procédé de science et de résolution, l'anaphore apparaît comme l'un des claptraps les plus puissants. Elle est couramment utilisée dans les discours qui cherchent à mobiliser l'enthousiasme des auditeurs, au premier rang desquels les discours politiques, qui sont parfois construits comme une simple succession d'anaphores. À titre d'exemple, dans le célèbre discours que Martin Luther King a prononcé le 28 août 1963 devant le Lincoln Memorial, la période « I have a dream » est anaphorique. Attention, cela dit, pour être efficace, l'anaphore exige un certain savoir-faire. Si nous échouons à lui donner du souffle ou si nous la prolongeons trop longtemps, l'effet de crescendo va disparaître pour laisser place à un cruel sentiment de monotonie. La phrase conclusive fera alors moins l'effet d'une résolution que d'une délivrance et plutôt que des applaudissements, nous risquons de recueillir surtout des haussements de sourcils dubitatifs. L'énumération ternaire. Autre procédé permettant de donner un fort sentiment de clôture, l'énumération ternaire, plus communément appelée « liste de trois ». Lorsque nous commençons une énumération, les auditeurs s'attendent naturellement à ce qu'elle comprenne trois termes. Si nous nous arrêtons au second, notre formule paraîtra inachevée. Si nous allons jusqu'au quatrième, elle semblera surchargée. En revanche, le troisième terme suscite de lui-même un sentiment de complétude. Il est étonnamment assez difficile d'expliquer pourquoi. Cela semble lié à la structure même de l'énumération. Le premier terme pose les fondements, le deuxième crée de la logique, le troisième confirme la cohérence, rendant le recours à un quatrième terme superflu. La recherche en psychologie sociale l'a d'ailleurs récemment confirmé. Les listes de trois s'imposent à nous avec une forme d'évidence. L'énumération ternaire constitue un outil redoutable pour donner à nos auditeurs un sentiment de résolution. Lorsque vient le troisième terme, il leur semble naturellement marquer la fin de la période. Pour peu que nous ayons créé suffisamment de science auparavant, nous avons de grandes chances d'être salués par une réaction d'enthousiasme. Notre étude de cas en comporte plusieurs exemples. Une France du travail, du mérite, de l'effort. Une France de l'exemple où le pays se retrouve dans ce qui le réunit, dans ce qui l'élève, dans ce qui le dépasse. De nombreuses énumérations ternaires sont d'ailleurs restées dans les mémoires, parmi lesquelles une phrase de Jules César, « Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ». La devise des Jeux Olympiques, « Plus vite, plus haut, plus fort ». Ou le titre d'un film célèbre, « Le bon, la brute et le truand ». L'opposition binaire. En rhétorique, l'antithèse est une figure qui consiste à mettre en opposition deux termes ou deux propositions. Selon les cas, elle peut s'apparenter à une simple mise en balance. L'argent sera remis à sa place, qui est celle d'un serviteur et non d'un maître. Ou bien prendre des formes plus complexes, comprenant des parallélismes de construction. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir, selon la maxime de Jean de La Fontaine. Elle peut également s'étaler sur un segment long ou être comprise tout entière en une seule phrase. Surtout, dans sa structure même, l'antithèse permet d'insuffler un sentiment de résolution. Une fois notre second terme énoncé, l'auditoire comprend que nous sommes parvenus au bout de notre période. Il s'agit d'ailleurs d'une des formes de résolution les plus simples possibles. Puisque ce n'était pas ceci, alors cela doit être cela. Exactement comme c'était le cas avec l'énumération ternaire, il s'agit d'un indice très fort donné à l'auditoire. Si notre période était suffisamment saillante et notre antithèse assez claire, nous avons de grandes chances de recueillir l'assentiment. Notons que notre étude de cas comprend une antithèse un peu particulière. Une France du civisme où chacun demandera non pas ce que la République peut faire pour lui, mais ce que lui peut faire pour la République. En rhétorique, il s'agit d'une figure de style à part entière. On appelle cela un chiasme, c'est-à-dire une double répétition par ordre inversé. A, B, B, A. En pratique, le chiasme n'est rien d'autre qu'une antithèse dont le parallélisme de construction a été poussé à son paroxysme. En cela, il tente à dégager une impression de grande élégance. On le retrouve d'ailleurs souvent dans le rap, auquel il a donné des vers puissants, par exemple chez Youssoupha, « Avant d'être un Français moyen, faudrait déjà qu'on me donne le moyen d'être un Français. » Ou alors chez Orelsan, « Ils disent que tu peux t'en sortir si tu le mérites, mais tu mérites de t'en sortir. » Il ne faut pas en négliger l'intérêt. Bien construit, bien maîtrisé, le chiasme est un claptrap redoutable. L'annonce. L'une des manières les plus simples de créer un sentiment de résolution consiste à annoncer ce que l'on s'apprête à dire avant de le dire, effectivement. Concrètement, ce procédé recouvre deux figures de style que nous avons déjà envisagées en guise d'accroche, la question rhétorique et la suspension. Avec la question rhétorique, nous énonçons une interrogation avant d'y répondre nous-mêmes. Quel est, en définitive, notre projet politique ? Nous voulons bâtir la France de demain. Avec la suspension, nous parlons de quelque chose sans dire de quoi il s'agit avant de finalement procéder à la révélation. Nous avons devant nous le plus important des choix, toujours le même depuis que la démocratie existe. Nous avons le choix entre la peur et l'espoir. Parfois, cette suspension pourra même s'incarner dans une structure extrêmement rudimentaire du type « Laissez-moi vous dire ce que je pense de… » Silence. « Eh bien, je pense que… » Dans tous les cas, l'effet est le même. Nous commençons par introduire du mystère en annonçant que nous allons dire quelque chose, puis nous levons le mystère en disant effectivement ce que nous avions annoncé. Ce faisant, nous mettons fin à la période, créons un sentiment de résolution et, si la séquence a été bien menée, récoltons nos applaudissements. Les combinaisons. Notons enfin que tous ces procédés de résolution peuvent être combinés entre eux afin d'en démultiplier l'efficacité. Dans notre étude de cas, on trouve ainsi une anaphore dont la phrase conclusive se révèle être une antithèse. La France n'est pas un problème, la France est la solution. Il est même possible de repérer une anaphore construite sur une structure ternaire dont chacun des termes prend la forme d'une antithèse. Nous avons devant nous le choix entre la peur et l'espoir, entre la résignation et le sursaut, entre l'agitation et le changement. Que l'on comprenne bien, ces combinaisons ne sont pas des fioritures stylistiques destinées à flatter l'oreille des professeurs de littérature. Elles ont une visée pratique. En fusionnant ces procédés, nous démultiplions d'autant le sentiment de résolution qu'ils suscitent et l'effet qu'ils ont sur notre auditoire. 4. Du claptrap à la clôture. Nous disposons désormais de tous les outils pour mettre en place un véritable claptrap, un piège à applaudissements. Dans un premier temps, nous utilisons des procédés de séance pour ouvrir une période, attirer l'attention des auditeurs et commencer à construire un crescendo qui va les amener progressivement vers un climax émotionnel. Lorsque nous sommes parvenus à ce point, nous refermons notre période en mobilisant un ou plusieurs procédés aptes à susciter un sentiment de résolution. Nous devrions alors recueillir une manifestation d'assentiment de la part de notre auditoire. Cette structure, c'est tout son intérêt, est extrêmement flexible. Elle peut être déployée en guise de clôture afin de susciter naturellement les applaudissements et laisser un souvenir mémorable de notre intervention. Elle peut également être utilisée au cours de notre discours, chaque fois que nous désirons voir nos propos être ponctués par une réaction de l'auditoire. Mais il est également possible de combiner ces deux approches en construisant toute notre conclusion sur une succession de claptraps. Si nous avons travaillé correctement, nous devrions alors provoquer une série de salves d'applaudissements, chacune plus importante que la précédente, jusqu'à terminer notre intervention sous les cris d'un public extatique. C'est ce que nous avons proposé dans notre étude de cas. Une telle construction requiert toutefois deux conditions bien spécifiques. La première, un contexte particulièrement monumental. On imagine mal cette scène en clôture d'une présentation devant une poignée de spectateurs. La seconde, une aptitude virtuose de l'oratrice ou de l'orateur à manier l'emphase, le lyrisme, voire la grandiloquence. Dans le cas contraire, le procédé risquerait de tomber à plat. Nous resterions seuls sur scène à nous époumoner devant des regards gênés, une mésaventure que l'on ne souhaite à personne. Précisons enfin que, durant toute cette section, nous sommes partis du principe que l'oratrice ou l'orateur avait pour objectif de générer des applaudissements. Dans la plupart des contextes, ce sera effectivement le cas. Il existe toutefois des situations telles que les éloges funèbres ou les sermons religieux où l'assentiment du public se manifestera avec beaucoup plus de sobriété et de retenue. Des hochements de tête, quelques larmes, voire simplement un lourd silence de cathédrale. Ce qui décidera de la manière dont les auditeurs manifesteront leur assentiment, c'est surtout le type d'émotion que nous aurons cherché à susciter dans notre propos. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Les procédés permettant de mener à un climax émotionnel, en revanche, resteront toujours les mêmes, séance et sentiment de résolution.